Au lieu de l'histoire, en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est dans les Bauges, la Magne et son argenterie. Des grains de paillettes, des pépites d'or, on en a trouvé jadis au bord du Chéron, un torrent qui prend sa source sur les plateaux des Bauges et se jette dans le Fier à l'issue d'un parcours de 50 km. De l'or très pur, oui, mais point d'argent. Pourtant, l'argenterie des Bauges fait bel et bien partie du patrimoine local. Voici comment. Dans ce secteur forestier, aux multiples essences, le travail du bois remonte au Moyen-Âge, près du mont Nivolé. Des moines chartreux façonnent des écuelles, comme le signale un texte en latin datant du XIVe siècle. Non loin, dans un petit hameau de la Magne, situé sur la commune de Saint-François-de-Sales, des paysans jattiers fabriquent un peu plus tard des ustensiles en bois. En 1645, Charles-Auguste de Sales, prince évêque de Genève, en résidence à Annecy, neveu de François, dont il sera chargé du procès en canonisation, et comme lui, né au château familial de Thoron, décide de faire fondre sa vaisselle en argent pour confectionner des objets de culte. Face à l'étonnement de son maître-queue, le prélat affirme, avec un sourire malicieux, pouvoir se réapprovisionner en argenterie sans problème dans les Bauges. La Magne, en effet, est connue pour ses tourneurs qui travaillent l'érable, sycomore, et ne savent pas que cet arbre à tige élancée, compagnon du hêtre et du sapin, est le symbole dans le théâtre shakespearien du chagrin d'amour par le biais d'un jeune mot, sycamour, sic, du mot malade en anglais. Dans les Bauges, on désigne cet érable de montagne sous le nom de plane, dont le bois présente une blancheur légèrement nacrée qui n'est sans doute pas étrangère à l'appellation d'argenterie, évoquant avec dérision la vaisselle des pauvres, dont il fournit la matière première. Les paysans les plus riches s'honorant de ne pas tourner. Depuis le Moyen-Âge, un cortège de règlements accompagne l'exploitation des forêts et le jattier. Un paysan sans terre exerce au lieu de la communauté rurale un métier de bohémien, à l'image du charbonnier qui vit avec sa femme et ses enfants dans une cabane de planches. Le plâne est coupé en période de repos végétatif et en lune descendante pour éviter que son bois, élément vivant par excellence et objet de tous les soins, n'éclate. C'est ainsi qu'en août-septembre, le tourneur, ennemi du gaspillage, va faire la feuille en abattant les arbres garnis de feuilles qui serviront de laitière, de fourrage à la vache durant les longs mois d'hiver. Il n'a pas de temps à perdre, car on travaille le bois encore vert. On tronçonne des billots que l'on fend en deux avant de les dégrossir à l'herminette. Hachette à tranchant courbe, comme le museau de l'hermine. Puis interviennent le tour à perche et le crochet. Installé dans un coin de la maison, monté en bâti rigide, construit par le jattier lui-même, le tour à arc alternatif avec courroie en cuir pédale est connu depuis l'Antiquité. Forgé le plus souvent au pays, le crochet de fer, quant à lui, doit être parfaitement aiguisé à la pierre naturelle humide. Celle-là même qui affûte les couteaux, scie et faux, puis repose dans son coffin. Le crochet distingue le tourneur qui cultive le goût de certains mystères pour autant. C'est le bois qui commande et par la suite, il ne faut jamais brusquer la machine qui coupe, creuse, tourne des pièces de toutes sortes et dont le séchage constitue par ailleurs une phase délicate. En effet, le bois risquant de se fendre, de se déformer, l'objet façonné ne doit pas sécher trop vite. À cette fin, il est déposé au sol, recouvert par des copeaux, à l'abri du courant d'air. Quelques jours plus tard, alors que l'hiver et la neige paralysent toute la vie extérieure, une seconde opération de tournage est réalisée. C'est la touche finale, celle qui identifie l'argentier. Résolu à laisser sa marque de fabrique, son cachet, sa griffe sur l'écuelle, le plat, le bol et la cuillère, la fourchette, le pilon, l'assiette, la jatte, le pochon, qui est une louche à écrémer, le botillon, une gourde destinée au transport du biscatin, la poche, une grosse louche à long manche recourbé. Formée d'une seule pièce contenant les assiettes de soupe, la poche est utilisée à table, matin, midi et soir. Vendue au prix de 4 litres de lait, les villageois en achètent une neuve chaque début d'année et la coutume veut que la fiancée en reçoive une avec un tablier des mains de sa future belle-mère pour marquer son entrée dans sa nouvelle famille. En 1850, une soixantaine de tourneurs exercent à la Magne. La vaisselle des humbles est d'abord commercialisée dans les quatre vallées des Bauges, puis se dirige vers d'autres cieux au pas tranquille des colporteurs. Dès le retour des beaux jours, des femmes, accompagnées de leurs rejetons, portent ainsi des paniers ou traînent une poussette, tandis que les hommes guident une mule et sa carriole vers un dépôt du côté du Pont-d'Ain, vers les marchés des foires de la région parisienne, de Lorraine, d'Alsace et du Midi. Égare au badaud qui accuse le camelot de mentir sur l'essence utilisée pour le tournage de l'argenterie, qu'il trimballe, fier de lui, le beau jus doué pour les affaires lui rétoque aussitôt. « Si ce n'est pas du bois de plane, c'est que le blanc de mes yeux saigne, que ma peau du cul se rabatte jusqu'à mes épaules et que vous eussiez les oreilles aussi longues que mon âne. Si ce n'est pas du plane, du véritable plane. » À quoi les gens des vallées répondent en marmonnant « Quant au beau jus, il pourra se fier au paradis, on le verra au diable. » En même temps que le colportage, l'argenterie des Bauges décline au début du XXe siècle. Les astuces du métier se transmettent encore de père à fils, mais les jattiers deviennent rares, leurs tours sont équipées d'un moteur électrique. Reste, malgré tout, le savoir-faire, le coup d'œil, la motivation de quelques-uns. Bien décidé à sauver de l'oubli une activité emblématique du petit coin de Savoie, attachée à ses racines et à ses traditions. Aujourd'hui, la Magne ne compte plus qu'un tourneur sur bois et à Thoiry, Jean-Paul Rossi, pour sa part, est le seul à travailler le plane avec le tour à perche comme autrefois. Passionné depuis son enfance par les métiers du bois, passionnant dans ses commentaires et dans ses explications, le retraité actif de l'éducation nationale accueille le visiteur avec gentillesse. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, « Au lieu de l'histoire en pays de Savoie ». Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.